de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Secrétaire général de l'ONU exhorte les États-Unis et le Royaume-Uni à retirer leur décision de cesser de financer l'UNRWA. Birmanie enverra des représentants à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN au Laos. Ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie étudie la coopération avec des sociétés satellitaires norvégiennes. Pour améliorer l'économie, le directeur général de l'immigration distribue 1000 visas dorés aux investisseurs étrangers. Ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative soutient l'économie de la région de Rebana à travers le développement du tourisme. Commission électorale générale de la République d'Indonésie ne changera pas le format du débat final pour les élections de 2024. Commission électorale d'outre-mer néerlandais doit se coordonner avec tous les partis pour organiser des élections propices. Bonsoir, je t'en voici les nouvelles en complet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté dimanche 28 janvier les États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs autres pays à annuler leur projet d'arrêt temporaire du financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Cette décision fait suite à des allégations d'implication du personnel de l'UNRWA dans l'attaque du 7 octobre contre des citoyens israéliens. Guterres, cité par Anadolu dimanche 28 janvier, a déclaré que les besoins urgents des réfugiés palestiniens doivent être satisfaits. Il a également déclaré que les 2 millions de civils de Gaza dépendent fortement de l'aide de l'UNRWA pour leur survie quotidienne. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Australie, le Canada, la Finlande et les Pays-Bas ont décidé de suspendre le financement de l'UNRWA. Mais la Norvège a salué l'enquête sur plusieurs membres du personnel de l'UNRWA et a déclaré qu'elle continuerait à soutenir les Palestiniens par intermédiaire de l'UNRWA. Outre la Norvège, l'Irlande a également annoncé qu'elle ne cesserait pas de financer l'agence onusienne. Le gouvernement de la Junte de la Birmanie a l'intention d'envoyer des représentants apolitiques à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, au Laos. Antara, dimanche 28 janvier, a rapporté que de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères de la Birmanie avaient assisté à une réunion à Luang Prabang à la veille du troisième anniversaire du coup d'État militaire. Le coup d'État a renversé le gouvernement civil dirigé par Aung San Suu Kyi, démocratiquement élu, lors des élections générales du 1er février 2021. Depuis octobre 2021, l'ASEAN n'autorise que des représentants apolitiques de la Birmanie à chaque réunion de l'organisation. Le Laos, qui est devenu président de l'ASEAN cette année, a décidé d'accepter d'impliquer le régime militaire de la Birmanie. La junte a initialement tenté de faire participer à la réunion des responsables de haut rang, tels que des ministres des Affaires étrangères, mais a été rejetée par d'autres membres de l'ASEAN. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie, Sakti Wahyu Trenggono, explore le potentiel de collaboration technologique avec Kongsberg Satellite Service, KSAT, Norvège, pour renforcer la mise en œuvre du programme de travail sur l'économie bleue. Le ministre Trenggono, dans sa déclaration citée par Antara dimanche 29 janvier, a déclaré que les capacités technologiques satellitaires de KSAT peuvent être utilisées dans divers sous-secteurs de la mer et de la pêche. Il ne s'agit pas seulement de détecter les navires se livrant à des pratiques illégales, mais fournit également des services de surveillance environnementale afin de pouvoir analyser des données dont les résultats se présentent sous la forme alerte précoce sur la menace de pollution marine. Les 5 programmes d'économie bleue lancés par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche comprennent l'expansion des zones marines de conservation, la mise en œuvre de politiques de pêche mesurées, le développement d'une aquaculture durable sur les côtes, sur terre et en mer, le suivi et le contrôle de l'utilisation des côtes et des petites îles, et la gestion des déchets plastiques dans la mer, à travers le mouvement de participation des pêcheurs. La Direction générale de l'immigration du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de la République d'Indonésie vise un millier de ressortissants étrangers pour obtenir des visas dorés en 2024, cité par Infas.id dimanche 28 janvier, directeur général de l'immigration Silmi Karim a déclaré pas seulement ciblant les investisseurs étrangers intéressés à investir en Indonésie. Ces visas dorés ont également suscité l'intérêt de nombreux investisseurs étrangers qui ont déjà été en Indonésie. Le visa doré sert de base à l'octroi d'un permis de séjour pour une durée de 5 à 10 ans, citant la déclaration de Silmi dans le communiqué officiel de la Direction générale de l'immigration, ce visa doré peut être obtenu par les investisseurs étrangers individuels qui créent des entreprises ou investissent des capitaux en Indonésie. Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le secteur du tourisme dans la zone métropolitaine de Rebana est en cours de développement afin de réaliser l'accélération d'une nouvelle croissance économique dans l'ouest de Java. La zone de Rebana est une nouvelle zone de développement dans Java occidental basée sur la zone urbaine centrale de Cirebon, Patimban, comme principal accès portuaire et Kertajati comme accès aérien abrégé en Rebana. Si tes parents t'arrêtent dimanche 28 janvier, Sandiaga a expliqué que l'aménagement du secteur touristique dans la zone métropolitaine de Rabana a adopté trois approches conceptuelles, à savoir l'accessibilité, les commodités et les attractions. Son parti relancera les festivals mettant en valeur la culture et la sagesse locale dans la région de Pantoura. Avec cette attraction, on espère que les touristes nationaux et étrangers pourront s'y arrêter et stimuler l'activité économique des résidents locaux. La Commission électorale générale de la République d'Indonésie tiendra bientôt le cinquième débat pour l'élection présidentielle de 2024. Le commissaire de la commission électorale, August Mela, cité par investor.id, a déclaré dimanche 28 janvier qu'il n'y avait aucun changement dans le format du débat final. August a également déclaré que le débat sur l'élection présidentielle organisée par la commission électorale générale était un espace de campagne donné par la commission aux participants potentiels à l'élection présidentielle de 2024. Il a également expliqué que même si dans le débat, chaque participant disposait d'un temps limité, les participants et leurs équipes de campagne pouvaient diffuser des informations et des élaborations connexes sur le thème du débat sur la vision, la mission et les programmes de travail à travers leurs activités de campagne respectives. Le cinquième débat a pour thème la protection sociale, la culture, l'éducation, les technologies de l'information, la santé, l'emploi, les ressources humaines et l'inclusion. Youssouf Warshim, membre de la commission de la police nationale indonésienne, a déclaré qu'il fallait une coordination et une coopération avec toutes les parties afin que les élections à la et aux Pays-Bas se déroulent de manière favorable et sans aucun obstacle. Youssouf Warshim, cité par Antara dimanche 28 janvier, a souligné qu'en raison du grand nombre de listes électorales permanentes, le modèle de sécurité pour la tenue des élections de 2024 doit être une préoccupation majeure. La commission électorale d'outre-mer de la Haye a enregistré que le nombre de listes électorales permanentes d'outre-mer aux Pays-Bas pour les élections de 2024 était de 13 162 électeurs. Aux Pays-Bas, le vote aura lieu plus tôt, à savoir le samedi 10 février de Broodfabriek Ridge Week. La commission électorale d'outre-mer de la Haye a formé un comité d'organisation des élections allant de Panwaslu. Le comité surveillance d'élections générales au superviseur au niveau des bureaux de vote. Deux personnels organisateurs seront préparés au lieu d'élection générale. Bonjour, Jeter, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le secrétaire général de l'ONU demande aux pays de ne pas arrêter leurs dons à l'UNRWA ». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé samedi aux pays donateurs de garantir la continuité de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA. Cette déclaration intervient après que plusieurs pays ont annoncé suspendre temporairement leurs dons à cette agence en raison de l'implication présumée de son personnel dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Antonio Guterres a déclaré que tout en comprenant les préoccupations des pays donateurs, il les a appelés à garantir au moins la continuité des opérations de l'UNRWA. L'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Gilad Erdan, a déclaré à l'occasion de la Journée internationale de l'Holocauste que les employés de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du Hamas le 7 octobre. L'UNRWA a répondu à cette déclaration en licenciant plusieurs employés. Cependant, plusieurs pays donateurs de l'UNRWA ont réagi en mettant fin au financement. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Australie et la Finlande ont suivi samedi les traces des États-Unis sur la base des accusations selon lesquelles Israël aurait suspendu le financement supplémentaire de l'UNRWA. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a déclaré que même si certains membres du personnel de l'UNRWA ont commis des actes répréhensibles, cela ne signifie pas que des milliers d'autres travailleurs humanitaires devraient être soumis à des sanctions. Selon lui, les besoins urgents des communautés désespérées servies par l'UNRWA doivent continuer à être satisfaits. Pendant ce temps, le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a exprimé dimanche sur le compte de réseau social X la possibilité d'arrêter les activités de l'UNRWA en raison de l'arrêt du financement. Selon lui, les opérations de l'UNRWA, dont dépendent plus de 2 millions de personnes à Gaza, risquent d'échouer. Lazzarini s'est également dit surpris que cette décision de suspendre temporairement le financement ait été prise sur la base d'accusations contre une poignée de personnes. Les accusations d'Israël concernant l'implication d'un certain nombre de membres du personnel de l'UNRWA devraient être suivies par la procédure judiciaire applicable. Cependant, cela ne devrait pas obliger les pays à arrêter ou à suspendre l'aide financière à l'UNRWA. Cette cessation a non seulement permis la continuité des opérations, des opérations de l'UNRWA en Palestine, mais a en outre un impact sur la misère du peuple palestinien qui souffrait de la guerre depuis le début. L'UNRWA a été créé par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 1949 pour mettre en œuvre des programmes d'aide directe et de travail en faveur des réfugiés palestiniens. En l'absence de solution au problème des réfugiés palestiniens, l'Assemblée générale des Nations unies a renouvelé à plusieurs reprises le mandat de l'UNRWA, alors que la guerre éclatait entre le Hamas et Israël en octobre dernier dans la région de Gaza, l'existence de cette agence onusienne devenait de plus en plus nécessaire. Il serait regrettable que l'aide aux victimes de la guerre qui souffrent tant soit interrompue parce que le financement a été coupé. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec Maudry. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui par le 29 janvier 1996. La France arrête ses essais d'armes nucléaires. Chaque jour, le 29 janvier 1996, au lendemain de l'explosion par la France de sa sixième et plus grande arme nucléaire dans le Pacifique Sud, le président Jacques Chirac a annoncé que le pays cesserait complètement ses essais d'armes nucléaires. Chirac a annoncé cette mesure sous la pression de l'intérieur et en dehors des pays qui protestent vigoureusement contre les essais d'armes nucléaires de la France. Les manifestations et les boycotts contre les produits français se sont généralisés dans diverses régions du monde après la reprise des essais nucléaires par Paris en juin 1995. Il a été enregistré que de juin 1995 au 27 janvier 1996, la France a effectué au moins 6 essais nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, Pacifique Sud. Lors d'un essai effectué sur l'atoll de Fangataufa en janvier 1996, la France a fait exploser une bombe nucléaire d'une puissance équivalente à environ 120 000 tonnes d'explosifs conventionnels, soit 6 fois la puissance de la bombe larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima en 1945. Chers auditeurs, passons l'histoire d'aujourd'hui par le 29 janvier 2015. La Malaisie a officiellement annoncé que le vol 370 de Malaysia Airlines avait eu un accident. Le vol 370 de Malaysia Airlines MH370 ou bien MAS-370 était un vol international régulier de passagers qui a disparu le 8 mars 2014 alors qu'il était en route de l'aéroport international de Kuala Lumpur vers l'aéroport international de Pékin. Ce dernier avion Boeing 777-200ER a pris contact avec le contrôle aérien moins d'une heure après le décollage. Exploité par Malaysia Airlines MAS, cet avion transportait 12 membres d'équipage de cabine et 227 passagers de 15 pays, dont la plupart étaient des citoyens chinois. L'annonce officielle du gouvernement malaisien a été faite par le directeur général du département de l'aviation civile malaisienne, Azharuddin Abdul Rahman, après avoir été introuvable pendant 11 mois. Chers auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui par le 29 janvier 2022, date de l'établissement du jour balinais de l'Arak. Le 27 janvier 2022, le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a déclaré le 29 janvier journée de Arak Bali. La détermination a été prise par le décret du gouverneur de Bali numéro 9/09/03-I-HK/2022. Ce décret renforce le règlement du gouverneur de Bali numéro 1 de 2020 concernant la gestion des boissons fermentées et ou distillées balinaises. Le gouverneur Koster a déclaré que la création de la journée Arak Bali faisait partie des efforts et des stratégies visant à renforcer la protection et l'autonomisation de l'Arak balinais. Depuis que le gouverneur de Bali a publié le règlement numéro 1 de 2020 concernant la gestion des boissons fermentées et ou distillées balinaises le 29 janvier 2020. La RAC peut être achetée librement tant qu'il est un produit d'une entreprise agréée et qu'il est produit avec des matières premières, produits par des agriculteurs locaux. Depuis la publication du règlement du gouverneur de Bali, de plus en plus de produits ARAC à Bali ont été équipés de permis de distribution de l'Agence de surveillance des aliments et drogues, BPOM, et ont des timbres d'assises. Bon, chargé d'état, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie, dont le titre est Accord entre l'Indonésie et le Venezuela sur la coopération pétrolière et gazière. Le gouvernement d'Indonésie et le gouvernement du Venezuela ont convenu de coopérer dans le secteur pétrolier et gazier. La coopération pétrolière et gazière s'est reflétée dans un protocole d'accord signé par le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Arifin Tasrif, et le ministre du pétrole du Venezuela, Pedro Rafael Telechea. Comme cité sur le site officiel du ministère de l'énergie et des ressources minérales, le ministre Arifin Tasrif à Caracas, Venezuela, a expliqué jeudi 18 janvier 2023 que l'Indonésie souhaite accroître la collaboration dans le secteur économique avec le Venezuela, ce qui peut également améliorer la coopération sud-sud. Il a expliqué que l'énergie joue un rôle important dans l'amélioration de l'économie. Par conséquent, l'Indonésie et le Venezuela peuvent partager d'éventuelles opportunités commerciales dans le secteur de l'énergie, en particulier celui du pétrole et du gaz. La cible protocole d'accord couvre entre autres la coopération commerciale pétrolière et gazière en amont, la mise en œuvre d'une récupération améliorée du pétrole, le développement et la mise en œuvre de technologies et de meilleures pratiques pour réduire les impacts environnementaux dans le secteur de l'énergie, le stockage et le captage du carbone, ainsi que la réduction du torchage du gaz. Les autres domaines de coopération comprennent les domaines d'activité convenus entre les entreprises publiques, BUMN, et le secteur privé entre les parties, sans nuire ni ajuster les contrats et accords existants. Dans le cadre de cet accord, Pertamina Persero Société Anonyme en tant qu'entreprise d'État indonésienne dans le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de Pertamina International Exploration and Production, PIEP Société Anonyme, devrait être en mesure d'explorer les opportunités d'acquérir de nouveaux blocs pétroliers et gaziers au Venezuela. Le ministre vénézuélien du pétrole, en tant également président de Petroleos de Venezuela, PDVSA, Pedro Rafael Telechea, a souligné que l'accord stratégique améliorera les perspectives du pays sud-américain sur le marché asiatique. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Venezuela, Imam Edi Mulyono, a souligné que le Venezuela est un partenaire important pour l'Indonésie et qu'il est donc juste que l'Indonésie et le Venezuela renforcent leurs relations dans le secteur énergétique. De plus, le Venezuela dispose d'un potentiel assez grand en ressources énergétiques, pétrolières et gazières. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jean hati dirimu diriku menyatu padamu hatiku berlabuh cintaku sejati
ini janjiku janji setiaku sisa hidupku hanya untukku.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, le crash de Sangkulirang Mangkalihat est situé dans le Kalimantan oriental, précisément dans la région de Kutai Est. Comme la zone karstique, l'emplacement de Sangkulirang Mangkalihat est également entouré de parois abruptes, de grottes souterraines avec des sculptures naturelles exotiques et de collines verdoyantes. La beauté de ce groupe karstique géant s'étend de la région de Kutai Est à la région de Berau. Chers auditeurs, cette zone a une superficie d'1,8 million d'hectares. Selon les résultats de recherche, cette zone karstique fournit des informations sur les traces d'hommes anciens qui peuvent être vues à partir de peintures faites à la main, de photos de bateaux, et de peintures de divers types d'animaux qui sont clairement représentées sur les parois de la grotte et qui auraient existé il y a environ 10 000 années avant Jésus-Christ. Des ossements, des récipients en argile et des outils en pierre ont également été trouvés ici. Dans cet endroit se trouvent des sites précieux, comme par exemple dans les domaines de la paléontologie, de la géologie, des sites fossilifères, des structures. L'existence de grottes, de rivières sous-marines, réserves de calcaire et de matériaux cimentaires est assez abondante et convient donc parfaitement comme site de tourisme naturel. Avec l'existence de ces spots touristiques naturels, les visiteurs peuvent pratiquer des activités telles que la randonnée, l'escalade, l'exploration des grottes, l'exploration de la flore et de la faune, et l'exploration d'anciens restes humains lors de la visite de ce lieu touristique. Chers auditeurs, pour vous rendre à la résidence de Kutaï-Est, vous pouvez voyager par voie terrestre pendant 4 à 5 heures. Départ de la ville de Samarinde avec un véhicule à 4 roues que nous pouvons louer dans un loueur de voiture pour environ 400 000 de roupia à 500 000 de roupia. Après votre arrivée dans la résidence de Kutaï-Est, vous pouvez continuer votre voyage par voie terrestre en 4 roues jusqu'au district de Sankuliram. Même si cette attraction touristique naturelle a été reconnue dans le monde entier, cette destination touristique est toujours considérée comme très naturelle. Il n'y a donc que quelques installations prévues, par exemple au poste de Tewet, un endroit a été construit pour que les visiteurs puissent se reposer. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di perusahaan ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Per sepeda motor. Je répète, per sepeda motor signifie par moto. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien et employé dans une agence d'expédition dans la ville de Semarang. L'employé a répondu à la question de Chris en l'informant des frais d'expédition de la moto. Écoutons le dialogue.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Biaya. Biaya signifie les frais. Pengiriman. Pengiriman signifie l'expédition. Dari Semarang. Dari Semarang signifie de Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya signifie à Palangkaraya. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah signifie 1.300.000 rupiah. Par. Par signifie par. Sepeda motor. Sepeda motor signifie la moto. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya 1.300.000 rupiah par moto. Berapa biaya? Berapa biaya signifie combien ça coûte? Mengirim. Mengirim signifie envoyer. Dans la conversation, vous entendez la phrase biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Je répète. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Signifie les frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya 1.300.000 rupiah par moto. Dans cette phrase, il y a une expression per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Le mot per signifie par, c'est-à-dire chacun ou un, fonctionne pour marquer le nombre de motos, ce qui signifie une moto. L'expression per sepeda motor signifie par moto, signifie choc ou une moto. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Signifie, les frais d'adhésion mensuels à ce centre de remise en forme sont 5.000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Signifie, prix du billet de cinéma 50.000 rupiah per personne. En Indonésie, le terme désignant un véhicule motorisé à deux roues est sepeda motor, ce qui signifie la moto. Cependant, la majorité des Indonésiens appellent sepeda motor un motor. Motor, ce qui signifie la moto. Dans certaines régions, il y a aussi des gens qui appellent les motos un kereta. Kereta. Cela veut dire le train. En fait, il y a aussi ce qu'il appelle une certaine marque de moto. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir! Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson kroncong intitulée Duhai Sayang, chantée par Kroncong de Djuputri. Sergio Etat, cette chanson a été créée par Yura Unita avec Toulouse et produite par Harry Rinaldi. Cette chanson est sortie sur la plateforme numérique de Yura Unita en décembre 2020. Cette chanson raconte l'histoire d'une personne amoureuse. Être avec la personne que vous aimez vous rend heureux, calme. Vous pouvez même oublier le temps. Vous voulez toujours être proche, seule. La personne que vous aimez peut remplir votre cœur et faire en sorte que le personnage dans cette chanson se sente aimé. Bon, chers auditeurs, voici Kroncong Tujuputri va chanter une chanson Kroncong intitulée Duhai Sayang. Bonne écoute!
Apa?
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.